Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans votre émission Bien fait pour vous, celle qui prend soin de vous tous les jours en direct jusqu'à midi. Et ce matin Mélanie, quel sera notre grand dossier du jour?
Aujourd'hui, on vous dira tout sur ce liquide vital que l'on consomme tous chaque jour. Je parle bien sûr de l'eau, elle peut être plate, gazeuse, minérale ou de source. On sait qu'on doit en boire environ 1,5 litre par jour. Mais pourquoi véritablement est-elle aussi essentielle à notre organisme et à notre bonne santé? On fera le point et puis eau du robinet, eau en bouteille notamment, laquelle faut-il privilégier? Y a-t-il des précautions à prendre? On verra tout cela ce matin avec nos experts. Nous recevrons notamment le professeur Gilbert Deray, il est chef de service néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et puis avec nous en studio également, il y aura Marie-Lise Mas, elle est directrice générale du CIO, Centre d'information de l'eau.
Ensuite Mélanie, à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec deux chroniqueurs de choc aujourd'hui. D'abord Edouard Dutour, rédacteur en chef au magazine Elle. Il viendra ce jeudi pour nous éclairer sur les dernières tendances mariage. Pour cette saison 2022, il nous dira quelles sont les modes actuelles pour se passer la bague au doigt. Et puisque je parle de doigt, la transition vers la chronique beauté de Benjamin Lévesque va se faire toute seule. Lui, ce matin, il a décidé de nous expliquer ce qu'est la vernithérapie. Et oui, apparemment, on peut prendre soin de soi de façon très complète, rien qu'en chouchoutant nos ongles. Ah, j'ai hâte d'en savoir plus.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être, Feel Good. Pendant une heure, on va comme tous les jours tenter de vous faire du bien, tout particulièrement si vous êtes assoiffé d'en savoir plus sur notre question du jour. La voici, boire de l'eau, oui, mais pourquoi et laquelle?
Eh oui, parce que je ne sais pas vous, mais moi je me demande souvent si je bois assez, si je ne devrais pas d'ailleurs de temps en temps changer de marque d'eau minérale ou même tout simplement me contenter de l'eau du robinet qui après tout est très bonne, je crois. Bref, on va répondre à toutes ces questions pas si anecdotiques que ça dans un instant avec nos experts. Car l'eau, c'est la vie. Et même si lui, il la préfère accompagnée d'un petit sirop de fraise, je crois, il a pu dénicher plein d'infos sur le sujet, n'est-ce pas Clément Lanoux?
On ne peut rien vous cacher. Bonjour tout le monde. Effectivement, avant de commencer cette émission, comme chaque jour, je prends un micro, je pars dans la rue et j'interroge les Français sur le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de ce liquide si précieux, si important pour la santé. Ma question était très simple au début. Je pensais que tout le monde allait répondre. L'eau, quelle est la boisson que vous préférez au quotidien?
Un pastis, même si on n'est pas du sud, un bon pastis en terrasse avec un petit accent du sud, c'est parti, vraiment nickel. Meilleure boisson.
L'ice tea, parce que c'est pas pétillant, donc tu peux faire un cul sec d'ice tea, c'est pas trop sucré et ça a un petit goût de pêche, du coup t'as l'impression de faire une bonne action.
Alors remarquez, dans le pastis, il y a de l'eau, modération.
Avec modération évidemment. Alors pourquoi faut-il boire de l'eau chaque jour?
Parce que c'est la meilleure façon de s'hydrater, mais c'est pas bon. Enfin, genre ça n'a pas de goût quoi. Du coup, je bois que des sodas, même s'il faut pas.
Mais non, ça a du goût, l'eau, justement. Alors, ce que j'ai décidé, c'est de vous rendre fan de l'eau. Comment boire plus d'eau? Comment aller vers cette boisson qu'on appelle l'eau? Il y a une technique qu'on m'a donnée dans la rue. Je ne la connaissais pas, la technique du dromadaire.
Je suis ce qu'on appelle un dromadaire. Du coup, je me fais des bouteilles. Genre, je prends les bouteilles d'ice tea de 2 litres et je les remplis avec de l'eau. Et je me dis, à la fin de la journée, il faut que j'ai fini cette bouteille. C'est un peu un mini challenge.
Se fixer des objectifs. C'est-à-dire, voilà, je sais qu'il faut 1,5 litre. J'ai ma bouteille d'1,5 litre. Elle sera finie à la fin de la journée. Bon, là, il fait chaud en ce moment, donc c'est un peu plus facile. Mais il faut le faire à l'année. Justement, combien faut-il boire de litres ou de centilitres d'eau par jour?
Alors, d'eau pure, pas énormément. Mais de l'eau sous toutes ses formes, c'est-à-dire ou du thé ou de l'eau, comme je vous ai dit, agrémentée de citron, gingembre, je pense au moins 1,5 litre, voire 2 litres par jour.
Alors ça dépend, la semaine on va dire que c'est de l'eau et le week-end on est plus sur du gin tonic dans des endroits sympas de Paris quoi, vraiment.
Encore une fois,
du liquide,
avec modération. Dès que j'interroge les gens sur l'eau, j'ai des réponses comme ça. Je précise que ce ne sont pas
beau,
des professionnels.
Là, ça devient un peu trop alcoolisé les
c'est
idées
pour
là,
ça, c'est pour ça. D'ailleurs justement, je précise que ce ne sont pas des professionnels, vous l'aurez remarqué puisque j'ai aussi croisé ce monsieur.
Ah non, moi de l'eau, non, très peu pour moi. Vu que j'ai une santé de fer, vous imaginez ce que ça va faire sur mon corps? Après, je vais rouiller.
Et oui, quand on a une santé de fer, faut faire attention.
N'importe quoi. C'est très drôle. Merci beaucoup Clément. Vous êtes au pétillant, j'ai l'impression,
moi,
ce matin.
Je varie. Je suis pas du tout fidèle en eau. Moi, je vais au gré des fleuves.
Où l'eau vous porte.
Exactement.
Voilà. Allez, merci Clément. On va poursuivre à présent notre enquête sur les bienfaits de l'eau démontrés par la science avec nos invités. Alors en studio aujourd'hui, il y a déjà vous, professeur Gilbert Deray. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Avec nous ce matin également Marie-Lys Mas. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directrice générale du CIO, le Centre d'information de l'eau. Professeur Deray, je reviens vers vous. On va d'abord reprendre la base ensemble parce qu'on a entendu beaucoup de bêtises juste avant. Un être humain, un adulte en bonne santé, on va dire, il doit boire quelle quantité d'eau par jour?
Alors d'abord, nous sommes, comme vous le savez, sur la planète bleue, puisqu'il y a plus de 70% d'eau sur cette planète, et on devrait nous appeler les hommes ou les femmes bleus également, puisque nous sommes faits d'eau, principalement, avec les 65% à peu près pour un adulte, 80% à la naissance.
C'est énorme.
Un peu moins quand on vieillit, un peu moins quand on est mince, mais on est fait d'eau, E-A-U. Mmh. Donc évidemment, si on est fait d'eau, E-A-U, et comme on n'est justement pas ni un dromadaire ni un chameau, donc on n'a pas de réserve, aucune réserve, ça veut dire qu'en permanence, il faut renouveler ce que nous perdons.
Mmh. Donc il faut boire.
Et donc il faut boire.
De
et
l'eau.
Nous avons besoin d'environ 2,5 litres par jour.
Ah oui, vous êtes au-delà de ce qu'on avait en tête. Ouais.
2,5 litres par jour, dont en général 1 litre par l'alimentation. Les aliments, ça contient de l'eau, hein, beaucoup.
Oui,
hein.
Voilà et le secret. Ouais.
Un légume, ça contient de l'eau, un fruit, ça contient de l'eau, et 1,5 litre. De boissons.
Julien, arrête pas de boire autre. Depuis le début de cette émission.
Effectivement,
parce que je veux que le professeur m'aime bien.
Et voilà, c'est fait.
Bon, mais merci professeur.
Donc c'est 2,5 litres.
Ok, ça sera fait.
Dont 1,5 litre de liquide.
De liquide, ok. En France, dites-moi, est-ce qu'on est plutôt bien gâté, Marie-Lys ? Est-ce qu'on a, je ne sais pas, par rapport à d'autres pays, notre eau potable, on la puise où ?
Alors, d'abord, il faut dire que sur la Terre, alors qu'on a 70% d'eau, hein, l'eau douce disponible, c'est très peu, c'est moins d'1%. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, je vais vous dire, si on imagine qu'on met toute l'eau du monde, de la Terre, dans une bouteille, une carafe, eh bien l'eau douce, elle ne représentera que le fond de la bouteille, une flaque d'eau.
C'est
donc
rien.
Vous voyez, c'est rien. En France, évidemment, on a la chance d'avoir beaucoup d'eau. On a beaucoup de nappes souterraines, on a une pluviométrie importante, on a des cours d'eau, des lacs, etc. Et donc,
on est gâté.
Normalement, on est gâté. D'où vient notre eau potable ? Eh bien, en France, on a aussi la chance de pouvoir puiser énormément dans nos nappes souterraines. Donc, ça veut dire que c'est une chance parce qu'elles sont mieux protégées. Donc, c'est à peu près 60% qui vient d'une nappe souterraine et le reste vient des cours d'eau et des lacs.
Professeur Deray, on est d'accord ? L'hydratation, bon, alors c'est l'eau qu'il faut privilégier. Si je bois uniquement des sodas, on en a entendu quelques-uns dans le micro-trottoir, même si c'est des light, même si c'est des jus de fruits frais, on a l'impression que c'est naturel. À la longue, si je ne bois que ça, c'est pas bon pour mon corps.
Ah, les sodas, c'est même une catastrophe. Faut pas hésiter, hein. Qu'ils soient light ou pas light, il a clairement été montré que si vous buvez que du soda light, votre risque d'obésité et de diabète, il explose. Donc, je me permets,
d'alerter.
Je le dis même haut et fort, les sodas, on devrait les bannir.
Oui, sauf que peut-être qu'on va avoir un petit problème avec le changement climatique qui est déjà en marche. Il va entraîner quoi sur notre rapport à l'eau ? Parce qu'il y aura peut-être pas, il y en aura peut-être pas pour tout le monde, hein.
Alors, justement, la perturbation du cycle de l'eau, c'est vraiment très impacté par le changement climatique. Les 7 dernières années, c'est démontré, c'est les années les plus chaudes au niveau mondial. On n'a jamais eu ça. Donc, on a des difficultés à récupérer l'eau. Vous voyez bien qu'on a la sécheresse. Alors, qu'est-ce que c'est que la sécheresse ? C'est quand déjà il n'a pas plu pendant l'hiver et que ça n'a pas rechargé les nappes, qu'il ne pleut toujours pas et que de l'autre côté, on a besoin... Le printemps arrive, on a besoin de plus en plus d'eau pour nos besoins déjà, et puis également pour l'agriculture. Et quand les deux s'entrechoquent, il y a un manque.
Eh bien, merci à tous les deux, vous restez évidemment avec nous, et vous aussi, hein, restez bien à l'écoute d'Europe 1, car dans Bienfait pour vous, ce matin, on vous explique des choses très pratiques et très utiles concernant ce geste que l'on fait tous, chaque jour, s'hydrater grâce à l'eau. On le fait presque machinalement, mais c'est un geste santé primordial. Tout notre corps, nos organes ont besoin d'eau pour bien fonctionner, mais la choisissez-vous correctement ? Y a-t-il des précautions à prendre, des choses à éviter auxquelles on ne pense pas forcément ? Toutes les réponses dans un instant, alors à tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre. Et ce matin, on vous pose cette question qui est plutôt d'ailleurs une invitation. Boire de l'eau, oui, mais pourquoi et laquelle ? Alors pour nous guider dans la bonne voie de l'hydratation parfaite au quotidien, ils sont toujours en studio avec nous, le professeur Gilbert, chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, ainsi que Marie-Lys Mas, directrice générale du CIO, le Centre d'information de l'eau. Alors professeur, on a vu tout à l'heure l'importance de boire de l'eau pour les besoins de notre corps, mais est-ce qu'il y a des personnes qui doivent boire plus que la normale à cause peut-être de pathologies ?
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première, c'est que la quantité que j'ai citée, c'est-à-dire en tout 2,5 litres, dont 1 litre par l'alimentation et 1,5 litre par les boissons. Ça, c'est dans des conditions standards. C'est-à-dire que lorsqu'on est en température, on va dire, normale et sans activité. Si déjà vous êtes en train de faire un trekking ou s'il fait 45 degrés, c'est beaucoup plus. Vous pouvez perdre jusqu'à 1 litre d'eau par la peau s'il fait très chaud.
Déjà hier, 29 degrés, c'était beaucoup pour nos organismes. Il fallait boire plus, il fallait rajouter un litre.
Ah oui, il faut augmenter le volume de boisson. Donc ça, c'est pour les conditions, on va dire, physiologiques variables. Puis après, effectivement, il y a des pathologies. Alors, il y a, on va dire, les deux grandes situations où il faut boire plus. La première, c'est si vous faites des infections urinaires, où effectivement, vous avez besoin d'un lavage de votre vessie, de vos urtères, de votre urètre par de l'eau. Donc là, il faut boire plus.
Plus de
2 litres par jour. Ouais. Et surtout, il faut répartir le volume des boissons. Ce qui est très important dans cette situation, et l'autre que je vais citer, c'est de boire matin, midi et soir. Parce que si vous avez une période de plusieurs heures où vous ne buvez pas, c'est là que vous ferez vos complications. Et la deuxième situation, c'est quand vous faites des cailloux dans les reins, des lithiases, des coliques néphrétiques.
Ah, c'est tellement
mal que ça.
Ouais.
Et là, il faut boire plus. Et là aussi, ce qui est très important, c'est de répartir les boissons, en particulier de boire le soir avant de se coucher.
Professeur, moi je m'inquiète beaucoup pour Julia, qui je crois a déjà ingurgité 2,5 litres depuis le début de cette émission. Est-ce que si on boit trop d'eau, pour le coup, il y a un risque ?
Alors, d'abord, pour ce qui est de Julia, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle va devoir se lever bientôt.
Vous avez vu, c'est la quatrième ou cinquième fois qu'elle boit.
Brutalement,
c'est ça le problème, c'est que ça fait aller aux toilettes.
La vessie se remplit, puis on a envie de faire pipi au bout d'un moment. Alors, le danger, non, parce que notre capacité, alors sauf situation extrême, hein. Nous avons une capacité à éliminer jusqu'à environ 8 litres d'eau par jour.
Bon, on a de la marge.
Donc, alors, avant de se mettre en situation de cette nature, c'est quasiment impossible.
Alors, oui.
Par contre, attention quand même, hein, vous avez des personnes qui sont ce qu'on appelle potomanes, qui boivent énormément d'eau. Puis vous avez d'autres situations où ça peut poser problème. Si vous avez une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale, vous éliminez moins bien votre eau. Donc moi, je vous déconseille de forcer sur l'eau à outrance,
allez,
ça ne sert à rien.
2 litres et 1 litre et demi, c'est bien.
Ne buvez pas 4-5 litres d'eau par jour.
Je voudrais qu'on revienne juste sur le fait de boire avant de se coucher, c'est ce que vous avez dit, non ?
Quand vous avez des cailloux, vous faites des cailloux et quand vous avez des infections urinaires, oui.
D'accord, oui, absolument.
Oui. Oui, parce que la nuit, les reins concentrent l'eau pour éviter qu'on se lève pour faire pipi. Donc si vous êtes sujet à faire des cailloux, et si vous n'avez pas bu le soir, bah vous allez concentrer vos urines la nuit, ça va favoriser les cailloux.
Bon, bah une bonne astuce à connaître. Marylis Massé, on a mal prononcé votre nom depuis le début, excusez-nous. On a une idée de la consommation moyenne d'eau par Français, si on consomme plus ou moins d'eau, je ne sais pas aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ou 20 ans, par
exemple. Alors, la moyenne, c'est à peu près 145 litres par personne. Et par jour, on consomme effectivement...
Pas à boire, hein, on est d'accord, hein, c'est au global, hein, dans toute notre vie quotidienne.
Voilà. On en consomme moins qu'il y a 10 ans. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, les gens ont appris à faire des économies d'eau. Ça fait suffisamment longtemps qu'on leur dit de le faire. Ensuite, parce que l'électroménager s'est énormément amélioré, donc moins d'eau utilisée. Et puis aussi, il faut voir aussi que les services publics de l'eau qui sont gérés notamment par des entreprises depuis plus de 10 ans, font très attention. Et en 10 ans, par exemple, pour vous donner une idée, elles ont réussi à faire économiser 700 millions de mètres cubes.
Wow.
Ce qui correspond, pour vous donner une idée, à l'usage de 9 millions de personnes par an.
C'est
énorme. Et comment on y est arrivé, hein ? C'est qu'on a fait très attention déjà à réparer toutes les fuites dans les canalisations publiques, en installant aussi de plus en plus ce qu'on appelle des compteurs intelligents pour l'eau, ce qui permet à tout le monde de regarder d'abord sa consommation et puis aussi de voir s'il y a des fuites
chez soi
ou en bas de chez soi.
Mais il me montre quoi ce compteur, puisqu'on en parle chez moi, comment j'évalue, juste envoyer un chiffre qu'il y a une fuite ?
Et bien parce qu'il vous alerte en vous disant, attention, d'habitude votre consommation elle est de temps, là tout d'un coup
ça part dans
on
les tours,
voit que bah ça oui. part, donc il y a peut-être un problème, d'accord. Regardez.
Alors professeur, on le disait tout à l'heure, hein, avec les fortes chaleurs, il faut boire un petit peu plus. Si ce n'est pas le cas, si on est déshydraté, qu'on ne boit pas assez, quels sont les signes qui peuvent nous alerter ? Parce qu'on ne le sent pas toujours. Hein.
Le premier, c'est tout simplement que votre cerveau va déclencher une sensation de soif. Alors, ce qui veut dire aussi que la sensation de soif, c'est que vous avez déjà perdu un petit peu trop. Donc logiquement, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, il faut boire régulièrement.
Et attention si vous êtes âgé, parce qu'on perd cette sensation en vieillissant, hein, si je me souviens bien.
Et évidemment, il faut faire attention dans certaines circonstances. D'abord, il y a l'enfant. Celui qui ne peut pas s'exprimer. Le bébé ou le très jeune enfant qui ne va pas dire qu'il a soif. Donc un enfant, il faut l'hydrater régulièrement sans lui demander s'il a envie ou s'il a son avis. La deuxième chose, c'est effectivement les personnes âgées qui peuvent perdre, vous avez raison Mélanie, cette sensation de soif. Puis la troisième situation, c'est les personnes en situation de dépendance. Quand vous êtes cloué sur votre fauteuil, si vous n'avez personne pour s'occuper de vous dans une EHPAD et que vous n'avez aucune visite, à la fin de la journée, hein, vous êtes complètement déshydraté.
Et est-ce que la couleur de notre urine peut être aussi quelque chose qu'on peut vérifier ? J'ai l'impression que si l'urine n'est pas trop jaune, peut-être que
plus
c'est
clair possible. Ouais. Ouais.
Est-ce que ça veut peut-être dire qu'on a assez bu et...
Tout à fait. Alors quand les reins marchent normalement, eh bien, plus votre urine est claire, donc vers le transparent, et plus cela signifie qu'elle est diluée, donc que vous avez bu. Donc si vos urines sont foncées, regardez vos urines du matin.
Elles sont plus foncées. Parce qu'on n'a pas bu.
Parce que vous n'avez pas bu pendant la nuit. Donc si vous voyez que vos urines sont foncées, ça veut dire qu'effectivement, il faut boire un peu.
Et ça peut paraître bête, mais je vais ajouter quelque chose. Je sais que vous y tenez, on ne boit pas son pipi. L'urine, c'est mauvais parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de charlatans qui diffusent ce genre d'infos. Boire de l'urine, c'est bon pour la santé. Il y a des bienfaits en naturo, je ne sais quoi. Non, c'est dangereux de boire de l'urine.
Ça s'appelle l'urinothérapie, des millions de personnes la pratiquent.
Vous voyez, je ne dis pas, c'est pas anecdotique, Julien.
C'est strictement inutile sur la santé et c'est dangereux. Ne le faites pas.
Bon, Julien, ne buvez pas votre pipi.
Sauf, il y a une circonstance où c'est utile. C'est si vous êtes en situation de danger, et c'est arrivé à certaines personnes.
Bien sûr, les accidents
d'avion.
Coincé
dans le désert, immobilisé, c'est votre seule façon de vous hydrater.
Et là, on peut le faire, évidemment.
Mais heureusement, ça n'arrive pas tous les jours.
Et avec modération, me dit notre réalisateur.
Oui.
Très bien. Alors comment, aujourd'hui, est-ce qu'on sait, d'ailleurs, justement, je me tourne vers vous, Marie-Lise, est-ce qu'on sait si on boit plutôt de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille? Quelles sont les préférences des Français?
Les choses ont beaucoup évolué en une dizaine d'années puisque l'eau du robinet est de plus en plus consommée comme eau de boisson. On reste beaucoup sur l'eau en bouteille, notamment pour l'eau pétillante. Hein. On est quand même, il faut le dire, un buveur mixte, c'est-à-dire que selon où on est, on boit...
Dans le studio, il n'y a pas de robinet, donc Julia, elle a la bouteille.
Moi, pendant ma journée, je prends une bouteille, à la maison, je bois l'eau du robinet.
Très bien.
Comme beaucoup de Français ou pas ?
Comme beaucoup. En fait, on s'aperçoit aussi que quand ils sont au sport, ils continuent, au lieu de prendre la gourde, parce que maintenant on a une gourde, mais on continue à avoir l'eau en bouteille.
Puisqu'on est sur la différence eau en bouteille ou du robinet, Gilbert, est-ce qu'il y a une différence du point de vue de la santé ? Est-ce qu'elles sont meilleures, les eaux minérales de source ou celles qu'on trouve dans le robinet à la maison ?
Alors là, oui, il y en a une.
Ah bon ?
Là, premièrement, l'eau en bouteille vous coûtera 100 à 300 fois plus cher. Deuxièmement, il va falloir aller la chercher.
C'est lourd.
Troisièmement, elle est en général dans une bouteille en plastique. Et on parle de dizaines et de dizaines de milliards de bouteilles en plastique qui vont être déversées sur la planète. Le plastique est le polluant qui va tuer notre planète dans les années qui viennent. Vous savez qu'une bouteille en plastique, ça vit environ 500 ans. Donc on a créé un truc immortel qui est en train de détruire tout ce qui est autour de nous. Puis après, la question, c'est est-ce que ça a une utilité sanitaire, médicale ? Aucune. Absolument aucune, qu'elle soit pétillante ou pas pétillante. Et donc, l'eau du robinet, c'est l'eau qu'il faut boire. Je vous ajouterai que dans vos bouteilles en plastique, vous avez plein de petites microfibres de plastique qui sont dedans. Avec tous les produits chimiques toxiques qui sont dans vos microfibres de plastique, parce que je vous rappelle que votre bouteille que vous avez sous votre bureau, c'est du pétrole.
Ah, ça suffit maintenant.
C'est du nafta.
Je sais, j'arrête.
Et que donc,
Elle boit du plastique,
mais,
en fait.
Mais je vais vous dire un truc, et vous allez être encore plus horrifiés, c'est que comme j'ai envie de faire un effort pour la planète, je bois plusieurs fois dans ma bouteille plusieurs jours d'affilée.
Eh bien, alors ça, c'est, on va finir.
Je
pourrais continuer longtemps.
Je sais, la finir de vous assassiner.
Ça, c'est à peu près le pire. Ouais. Quand vous prenez votre bouteille en plastique classique que vous laissez sur votre table de chevet, que vous faites ce que vous faites, au bout de 3-4 jours, dans le fond de votre bouteille, vous avez plus de bactéries que sur la cuvette de vos WC. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est boire de l'eau du robinet. Le matin, vous la remplissez, votre gourde, pas en plastique, bien sûr. Vous venez avec, vous la mettez au frais, et vous buvez. Et l'eau du robinet, on a une chance extraordinaire. C'est l'aliment le plus contrôlé au monde.
Donc on risque rien
donc,
avec l'eau du robinet.
Il faut arrêter, un, de se polluer soi-même, et deux, de polluer la planète.
C'est promis, professeur. Merci, c'est bien noté. Vous restez quand même avec nous, même si on n'est plus copains. On n'en a pas fini avec notre sujet de ce matin. On vous dit tout aujourd'hui sur les bienfaits de l'eau et les meilleures façons de la consommer. On a notamment reçu quelques questions concernant l'intérêt ou non des fameuses carafes filtrantes. On va y répondre. Et puis, vous êtes nombreux aussi à nous questionner sur les moyens d'économiser l'eau au quotidien. On va en parler également, mais pour en savoir davantage, restez bien hydratés et surtout avec nous sur Europe 1.
D'abord.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre question du jour, la voici. Boire de l'eau, oui, mais pourquoi et laquelle? On vous explique tout avec nos experts, toujours en studio, à nos côtés, à savoir le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, ainsi que Marie-Lise Massé, directrice générale du CIO, le centre d'information de l'eau. Alors Marie-Lise, sur votre site internet, on peut, qui est d'ailleurs très bien fait, je le signale et je vous invite à aller faire un tour dessus, on peut avoir une idée de ce que l'on utilise en termes de quantité d'eau soi-même. Comment il fonctionne ce calculateur que vous mettez à la disposition des gens? Expliquez-nous.
Eh bien, en fait, les gens le remplissent, hein, nous disent comment ils utilisent d'eau, on les guide et à la fin, on leur dit voilà, vous utilisez tant et donc ils retombent après sur les conseils. Quand ils savent s'ils utilisent trop d'eau, ils retombent sur les conseils qui sont donnés.
Alors, figurez-vous qu'on a une question de Rosie hein, sur Insta pour vous, professeur. Une question que tout le monde se pose. Quid des carafes filtrantes vendues un petit peu partout? Est-ce que ça a un réel intérêt pour notre santé ou est-ce que c'est du marketing? On aimerait avoir votre avis, professeur.
On va commencer par la conclusion. C'est du marketing, ça n'a strictement aucun intérêt. Ça enlève grosso modo deux choses, le calcium et un peu de plomb. Pour ce qui est du calcium, c'est dommage parce que ça représente 20% de nos apports, il est nécessaire. Donc l'enlever n'a aucun sens. Pour ce qui est du plomb, ça n'enlève pas beaucoup et surtout, c'est fini les canalisations en plomb. Les inconvénients de ces carafes sont multiples. D'abord, ça va provoquer une fois de plus de la pollution. Deuxièmement, quand elles sont en plastique, bah, de nouveau, vous avez le problème du plastique. Et puis, il y a une enquête qui a été faite il y a quelques années, en 2017, qui montrait sur une trentaine de familles que finalement, comme elles n'étaient pas gérées correctement, il y avait plein de bactéries au fond de ces carafes.
Et parce qu'il faut changer
extrêmement rapidement,
les cartouches.
Il faut les nettoyer, il faut changer les cartouches. Au passage, ça coûte quand même plus cher que l'eau du robinet. Et puis, il y a d'autres interrogations qui sont le fait que, du fait d'une modification du pH, ça va libérer des métaux dans vos liquides. Il y a un point qui est dommage, c'est que les cartouches, vu leur capacité d'élimination, peut-être pourraient avoir un intérêt pour enlever des microfibres de plastique. Malheureusement, ça n'est pas indiqué. Moi, je leur ai envoyé un mail pour leur dire ce que j'en pensais, j'ai jamais eu de réponse. Donc en pratique, buvez de l'eau du robinet.
On est le meilleur ami du robinet aujourd'hui, on l'a compris, c'est la meilleure façon de s'hydrater. On a une question sur Instagram de Valdol qui dit donc, j'ai un adoucisseur d'eau, puis-je sans danger boire de l'eau du robinet? J'aimerais arrêter d'acheter l'eau en bouteille. Je ne sais pas qui veut répondre. Adoucisseur d'eau, Gilbert?
L'adoucisseur d'eau, essentiellement, ça enlève du calcium. Donc en fait, c'est très intéressant pour protéger vos machines. Pour vous, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais pour les machines, oui. Parce que
ce calcium, pour moi, il n'est pas mauvais, celui qui est calcaire dans l'eau.
Le calcium de l'eau du robinet, il est utile. Il n'est pas gênant, il est utile. Donc quand vous mettez un adoucisseur, mettez-le surtout pour protéger vos machines à laver.
Ben oui, pour le linge,
et buvez
tout
votre
ça.
Eau du robinet.
Ok, d'accord. Donc Marilyn, excusez-moi, pour adopter les bons gestes hein, pour réduire notre consommation d'eau, comment il faut faire en fait? Est-ce que, je ne sais pas, comme c'est très cher au litre, hein, l'eau quand même, ça coûte cher.
On a l'impression, mais on a quand même la
sensation.
Vrai.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous conseiller pour réduire notre facture?
Alors, d'abord vous dire que l'eau n'est pas chère. Si vous achetez 3 litres d'eau du robinet, c'est 1 centime d'euro. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, et avec qui d'ailleurs je suis d'accord sur plein de points, hein, donc je n'y reviens pas, on est en phase. Mais c'est vrai que l'eau minérale, c'est entre 100 et 300
donc ça
fois
très
plus cher.
Alors pourquoi on a cette sensation, nous, parfois?
Parce que vous recevez une facture en général une fois par an et qu'elle est en moyenne de 300 à 400 euros. Donc évidemment, quand vous la recevez, vous sursautez. Mais faites la division avec ce que vous avez
acheté au supermarché
payé,
en bouteille.
Et n'oublions pas que cette eau, elle arrive donc de très bonne qualité, elle est distribuée 24 heures sur 24, elle est évacuée de chez vous avec les eaux usées, voilà, il y a du travail.
Il y a du travail, alors j'imagine, on le sait, on ne prend pas de bain, on prend plutôt une douche, ça paraît évident, mais ce qui était moins évident, c'est les lave-vaisselles. Apparemment, on gaspille moins d'eau à lancer un lave-vaisselle qu'à faire à la main.
Tout à fait, parce que maintenant, vous avez des lave-vaisselles avec 12 litres, vous arrivez à faire un programme. Mettez-les aussi sur l'économique, parce que ça vous permet et d'économiser l'électricité et de l'eau. Et une vaisselle en bassine, c'est 40 litres.
Ah oui.
Donc là, j'alerte surtout sur les gens qui vont partir dans quelques semaines en vacances, ils ne seront pas chez eux, qu'ils fassent attention avec cette eau, qu'ils la réutilisent ensuite, une fois qu'ils auront fait la vaisselle, pour essayer d'arroser.
Marie-Lise, vous conseillez aussi, je crois, pour faire des économies, de se munir d'un mousseur. C'est quoi ce truc?
Ah, un mousseur. Alors, c'est très très simple. C'est en fait un petit truc qu'on qu'on achète dans les n'importe quel magasin de bricolage, sans faire de publicité. Vous le vissez soit sur votre douche, soit sur vos robinets. Et l'astuce, en fait, elle est très simple. C'est que il y a un filtre qui fait que l'air est envoyé en même temps que l'eau. Donc vous avez l'impression de garder votre confort. Mm-hmm. Et en fait, vous avez économisé de l'eau.
On a le même débit, mais en gaspillant moins d'eau. D'accord. Et pour les toilettes, tirer la chasse, tout ça, il y a des astuces ?
Alors, vous tirez la chasse tout le temps. Hein. Vous ne laissez pas le pipi et le reste stagner, déjà.
Non, ça, le reste, voilà. On savait, mais pour le pipi, on a entendu dire
voilà.
Que...
Non, mais... en revanche, vous utilisez des chaînes à deux... des chasses d'eau à deux vitesses.
On prend la petite pour le...
Voilà. Et puis l'autre pour avoir un flux plus important. Ou alors, si vous ne voulez pas faire cette dépense, vous collez une brique dans votre réservoir d'eau et effectivement, ça permet qu'elle se remplisse moins et ça fait à peu près le même usage.
Gilbert, on a une question pour vous.
Et en tout cas, vous ne laissez pas goûter votre chasse d'eau parce que c'est chaque heure, ça doit être 25 litres d'eau qui part, le goutte à goutte au robinet pareil. Donc à la fin de l'année, ça fait très cher là.
Allez, je dis, on a une dernière question pour vous, Gilbert. Une question d'Annabelle sur notre compte Instagram. Elle dit, mon petit garçon a presque un an. Est-ce que je peux lui donner à lui aussi de l'eau du robinet ?
Alors, bon, il a un an, donc maintenant, on peut lui donner de l'eau du robinet. Ce garçon de...
Il n'y a pas de problème.
Un garçon de un an, oui.
Plus petit, pourquoi on conseillait en tout cas de faire les biberons plutôt avec de l'eau minérale, de l'eau en bouteille.
Oui, c'est ça. Mais c'était essentiellement pour des raisons d'hygiène et de crainte qu'on puisse avoir des infections dans l'eau du robinet et de composition.
Mais bon, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément valable.
Mais un nourrisson, on ne lui donne pas de l'eau du robinet
quand
même.
Non, on continue à conseiller pour
par,
les
par grande sécurité,
moins,
on va voilà. dire, c'est ça. Mais en réalité, le risque n'est pas énorme, on est d'accord.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien très instructif. Je ne ferai plus jamais couler mon robinet de la même façon grâce à vous et je vais jeter toutes mes bouteilles en plastique. Et je retiens surtout, Mélanie, que finalement, il n'y a que l'eau du robinet qui compte avec un bon litre et demi à minima par jour, surtout beaucoup plus s'il fait chaud. Voilà pour ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci à vous deux.
Très bien, merci encore. Julia, maintenant, on va basculer vers la séquence tendance de Bienfait pour vous. À cette saison, qu'est-ce qui démarre en général ? C'est la saison des mariages. Et oui, qui débute. Eh bien, Edouard Dutour, avec lui, on saura tout sur les modes actuels pour dire oui de la façon la plus branchée qui soit en 2022. Et enfin, Benjamin Lévesque sera également avec nous dans sa chronique beauté. Il va nous expliquer ce qu'est la vernithérapie. Il l'a testé en plus, alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Bienfait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être, dans lequel on tente de vous faciliter le quotidien tous les matins, de 11h à midi en direct. Et c'est notre partie consacrée aux tendances qui va démarrer à présent. Je me tourne d'abord vers vous, Benjamin Lévesque.
Bonjour les filles.
J'ai dit Lévesque. Hein.
Oui, c'est Lévesque.
Lévesque, vous êtes notre journaliste beauté. En quelques mots, la vernithérapie dont vous allez nous parler, c'est quoi en fait ?
On part du principe que chaque couleur nous procure une émotion particulière et donc on va choisir son vernis en fonction de son état psychique, émotionnel. J'ai bien compris pour vous, c'était quoi le rose et
moi,
rouge
c'est du, ouais, c'est... Moi, c'est un rose tendre.
Moi, je l'ai fait hier. Génial, on va explorer tout ça avec vous, Benjamin. Mais là, tout de suite, c'est Edouard Dutour qui va nous conduire amoureusement devant l'hôtel, enfin à la mairie, où vous voulez d'ailleurs. Mais avec Mélanie, on vous dit déjà un grand oui, Edouard. Bonjour.
Non, mais moi aussi, je vous dis oui. Bonjour les filles.
Bonjour
à toutes et à tous. C'est vrai que c'est la saison des mariages. Hein. Je ne sais pas où vous en êtes personnellement,
marié.
Dans votre vie conjugale, on peut faire un petit tour de table.
Marié depuis 5 ans. Moi, je vis dans le péché, j'adore.
Ah, célibataire depuis 30 ans.
Cherche l'amour.
Cherche l'amour. Bon, ben, en tout cas, moi, je ne serais pas contre une
et
petite...
Et vous, parce que vous êtes gentil.
Moi, c'est ce que je vais vous dire. Je ne serais pas contre une petite bagouze en 2022,
d'accord.
Chérie, si tu m'entends. Je ne suis pas que c'est déjà pas mal. Mais ce qui fait peur, pour moi, en tout cas, ce qui me fait peur dans le mariage, au-delà de l'engagement et de la fidélité, mon Dieu, quelle drôle d'idée, c'est surtout la ringardise potentiel de la cérémonie, ambiance, un mariage à la campagne tiré par deux chevaux, c'est du Michel Sardou, vous reconnaissez. J'embrasse Michel, que j'aime beaucoup. Alors, je me suis porté, évidemment, vers mon magazine préféré, auquel je participe, vous le savez, le magazine Elle, qui sort aujourd'hui en kiosque. Vous pouvez pas le louper, c'est Isabelle Adjani en Marilyn Monroe, en couverture, oui. Ça se voit. Et dedans, il y a un petit dossier drôlement bien fait pour concocter un néo-mariage un peu branchouille, un peu dépoussiéré, dans l'air du temps.
Bon, alors, ça me savoir si je me suis loupé, c'est quoi aujourd'hui un néo-mariage hyper dépoussiéré.
Mais en fait, l'idée, c'est de se marier comme on vit. Parce que généralement, c'est tout l'inverse. Évidemment, rien ne ressemble à la vraie vie dans un mariage. Et ce qui est à la mode, c'est de changer tous les codes pour que ça vous ressemble et pour être en cohérence avec vos goûts.
Ah, j'aurais dû me marier dans mon potager, voilà. Vous voyez, je me suis loupée. Oui,
on n'a aucune envie de se retrouver avec un œuf en gelée dans un vieux château poussiéreux.
Ah,
on veut quelque chose un peu frais. Alors d'abord, on fait attention à la planète. Je sais que lundi, nous avions une chronique ici même que vous pouvez réécouter sur le mariage écolo. Donc évidemment, bouquet de saison et locaux de préférence. Les dahlias, les nigelles, les pois de senteur sont cultivés en Île-de-France, près de Hyères ou en Normandie.
Parfait.
Ça existe en France. Évidemment, il n'y a pas que des fleurs qui viennent de l'autre bout du monde. Pour le vin, idem, à consommer avec modération, comme on dit. On n'est pas obligé de se ruiner en champagne. Le petit truc très à la mode, c'est de dégoter un vin naturel pétillant et encore mieux local. Par exemple, si vous mariez à Biarritz, eh bien, il y a le Tsakoli qui fonctionne bien, qui est un vin naturel local. Mon conseil, c'est de les servir très très frais, parce que comme c'est quand même pas un grand champagne, si c'est bien glacé, ça passe encore mieux.
Et ça coûte beaucoup moins cher. Et question pièce montée, on est obligé ou pas?
Alors pièce montée, moi je suis contre, parce qu'en fait généralement, si elle se casse pas la gueule avant d'arriver, c'est déjà pas mal. En plus, on n'en mange jamais, on a déjà trop mangé. Ce que je conseille, c'est de faire des vrais gâteaux maison. Alors, un peu jolis, on s'applique.
Julia va les
Mais qu'est-ce
faire,
qu'il y a de mieux qu'un sublime cake, un vrai gâteau au chocolat, vrais gâteaux maison. Alors vous pouvez peut-être un petit peu pousser la sophistication, mais en tout cas, je suis contre la pièce montée.
Et pas de photographe non plus, je crois.
Pas de photographe non plus, parce que le résultat, on finit toujours comme deux coucouilles coincées dans le jardin de la mairie.
C'est pas vrai, moi j'en avais un très bon, je salue Olivier.
J'étais à mourir d'ennui quand même, généralement comme photo. Moi, mon conseil, c'est de trouver un copain un peu arty, un peu qui a un bon œil, le type qui a du goût, lui confier cette mission avec un bon iPhone, on fait des merveilles.
Mais bien
et puis
sûr.
On rigole surtout.
On peut mettre des filtres et tout. Et sinon, c'est quoi le mois le plus à la mode pour se marier? Parce que généralement, c'est plutôt genre juin, septembre, non?
C'est vrai que c'est plutôt juin et septembre, mais le calendrier a bougé. Alors deux choses. Déjà, le truc, c'est de se marier en semaine. C'est hyper à la mode. Pourquoi? Déjà parce qu'en fait, avec le Covid, il y a eu beaucoup d'endroits qui ont été surbookés, comme les gens ont reporté leur mariage.
C'est dur de
trouver
des dates.
Si vous rêvez
de
tel endroit et qu'en fait, il est pris déjà tous les week-ends.
Bien
vous
sûr.
Pouvez proposer au propriétaire
un
du
mardi,
lieu que vous voulez louer.
Tout le monde pose d'une RTT.
Évidemment.
Mardi, un peu embêtant, mais jeudi, par exemple, ça passe.
Non, mais si vous le faites pendant l'été, c'est plus simple.
Ouais.
Évidemment, en semaine, en plein, là, c'est compliqué, mais si vous le faites pendant l'été, puis vous savez, aujourd'hui, tout le monde télétravaille. Donc, en fait, si vous le savez, mercredi soir, les gens, ils télétravaillent dans le train le mercredi, et puis ils rentrent le jeudi, et c'est moins cher, évidemment, et c'est moins cher. Et l'autre truc, c'est de décaler carrément, de sortir de la saison du mariage, et de vous marier, eh bien, dans le sud de l'Europe, en Espagne, ou au Portugal, au mois de juin, ou fin octobre, même, carrément, au fin octobre. Et là, il fait encore très doux. Et c'est chouette.
C'est moins écolo parce que tout le monde doit prendre l'avion, mais pourquoi pas. Alors Edouard, on entend aussi parler de micro-mariage. C'est pas un mariage au rabais, ça?
Non, rien de cheap, au contraire. L'idée, c'est de faire une fête confidentielle. Vous savez, comme ces boîtes de nuit dans lesquelles on rentrait jamais quand on était jeune, parce que c'était trop chic pour nous, où il n'y avait plus de place. Et bien là, vous faites pareil. Vous faites quelque chose d'extrêmement confidentiel, extrêmement select. L'idée, en fait, c'est d'inviter que les gens que vous aimez vraiment.
Ouais.
Et aucune obligation, aucune mondanité, aucune arrière-arrière belle famille. Relou.
Ça vous plaît, Julia?
Moi,
si je devais me marier, on serait 10. Quoi.
On serait 10, on a tout compris qu'on serait pas là.
Voilà, je pense qu'on aurait pas nous.
Non, mais en gros, c'est 30 personnes, c'est vraiment votre premier cercle, comme on dit ça. Et c'est moins de stress, moins de sous et plus de kiff.
Bien sûr. Et puisqu'on parle plaisir, c'est également le retour de l'enterrement d'une jeune fille, garçon.
Ouais, c'est vrai. Alors moi, je suis pour mixer d'ailleurs. C'est-à-dire on fait la
ensemble.
Fête avant, on mixe les garçons, on invite ses meilleurs potes et ses meilleures copines. Le truc qui est nouveau, c'est qu'avant on faisait des grosses beuveries interminables dans des grandes villes, genre on allait perdre 12 points de vie
Barcelone,
j'ai oublié dans le mien, les oublié. Et on buvait tellement qu'on n'était pas sûr d'aller jusqu'au mariage. Donc ça, c'est complètement dépassé, de errer déguisé je ne sais où. Le truc, c'est de faire une petite ambiance hyper slow, un petit coup de yoga, un petit coup de soins esthétiques, se raconter des petits secrets de filles, voilà. Un truc tout doux, tout chouette.
Ça
n'empêche pas de rigoler.
Voulez-vous vous marier avec moi, Edouard?
Oui, je veux bien.
Allez, il y en a un qui va être content. Merci beaucoup, Edouard, pour cet éclairage.
Je vous dis oui.
Allez, mariage version 2022. Je crois que ça a donné quelques idées à Julia, effectivement.
Ouais.
Bon, avant qu'on se fasse passer ou repasser la bague au doigt, on va déjà voir comment les chouchouter, nos mains, nos doigts, de façon originale. Avec vous, Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, Benjamin, vous allez prendre soin de nos ongles, mais aussi de notre bonheur, puisque vous êtes venu nous dire que porter du vernis à ongles nous rendrait heureux.
Oui, ce sont des scientifiques qui ont montré que chaque couleur
couleur en fait a des effets psychologiques particuliers, qu'on en ait conscience ou pas d'ailleurs. Un exemple, quand on se réveille le matin, que l'on regarde par la fenêtre et que l'on voit du gris, eh ben on n'a pas envie de sortir de son lit, hein. Le gris est démotivant. Et même chose si vous vous baladez en forêt, hein, quand vous êtes entouré de vert, vous vous sentez serein, le stress diminue. On fait notamment des bains de forêt au Japon, c'est pour diminuer l'anxiété, donc le vert apaise. Et ce pouvoir des couleurs sur nos émotions, eh bien, ça fait des années que les décorateurs d'intérieur, par exemple, ont compris ça. Et maintenant, c'est au tour du monde des cosmétiques. Et plusieurs marques de vernis comme Original ou Mavala mettent en avant ces vernis du bonheur, entre guillemets. Et je l'ai constaté en parlant avec plusieurs clientes aux abords d'un rayon de vernis.
Je me sens beaucoup plus féminine quand je mets du vernis. Je parle plus facilement avec les mains.
Je fais du nail art sur mes faux ongles. Je peux mettre des fleurs de tournesol, des petits personnages pour justement me sentir unique.
J'en mets effectivement tous les jours, mais c'est vraiment parce que ça me fait du bien.
Là, par exemple, je vois que c'est tout rose, il y a une signification.
Besoin d'avoir justement de la couleur aujourd'hui et d'avoir du peps, donc j'ai pas mis une couleur nude, parce que comme ça, je me sens vraiment bien.
Bon, Benjamin, on a envie de savoir c'est quoi les couleurs apportées pour être heureux.
Alors, selon les neurosciences, on n'aura pas la même perception de vous selon la couleur que vous portez. Vous, Julia, je sais que vous adorez mettre du rose dans votre agenda, dans votre vie. Eh bien, le rose symbolise la féminité. Et si vous paraissez très strict, mettez du rose, ça va vous assagir. Ça évoque aussi la délicatesse. Et d'un point de vue psychologique, j'ai appris que le rose aide à cicatriser les peines. Donc, si vous faites larguer, le lendemain, mettez du rose. Vous, Mélanie, qu'est-ce que vous
prenez ? L'été, je mets du corail en général.
Ah, le corail. C'est à couleur très chaleureuse, et ça c'est vraiment une couleur qui sort de la déprime, ça apporte de la gaieté, de la joie, et ça va bien avec les rousses en plus.
Ah, parfait.
Alors Edouard, je sais que les hommes mettent pas encore beaucoup de vernis, mais est-ce que vous portiez du vernis et quelle couleur ?
Alors, je me réjouis que les garçons portent du vernis aujourd'hui, d'ailleurs ça n'a rien à voir avec leur sexualité, c'est ça qui est rigolo.
Non, du tout.
Moi, chez les jeunes, à la sortie des lycées,
du noir,
ça y va,
du
le vernis.
Bleu, ouais.
Moi j'hésite, je suis pas encore passé au vernis, j'ai l'impression que je suis un peu trop vieux, mais c'est peut-être bête. Mais si je devais le faire, je prendrais un truc bien chaud. Un truc rouge, un truc limite professionnel du sexe,
rouge.
Vous voyez.
Le rouge, c'est la couleur des leaders. Le rouge donne de la force et de l'assurance.
Ah ben
et
voilà.
Puis, alors si vous êtes artiste, le turquoise, je peux vous conseiller, c'est la couleur à apporter pour être créatif. Donc si vous travaillez dans une banque, pas besoin, mais si vous êtes artiste ou journaliste, on dit que les bonnes idées, on les trouve dans le bleu clair. Et puis, la couleur que l'on porte peut aussi nous aider à changer certains traits de nos caractères. Écoutez Anne-Sophie Bastien, elle est conseillère en images et elle travaille beaucoup avec des grands timides.
Alors une personne qui est plutôt en effet timide, elles vont plutôt être attirées par des couleurs un petit peu basiques, des couleurs un peu pastel, par exemple du bleu ciel, du rose poudré, du beige. Si par exemple son objectif c'est d'être plus extraverti, je vais moi lui conseiller des couleurs un petit peu plus vives, comme par exemple le vermillon, l'indigo, le moutarde, le marron. Comme ça elle va pas être trop déboussolée parce qu'elle connaît un peu ses couleurs, mais elles vont évoluer un petit peu plus.
Alors Benjamin, est-ce que sans forcément mettre de vernis, c'est ça que vous vouliez dire, de vernis coloré,
oui, c'est ça.
Juste le fait de prendre soin de ses ongles, ça peut changer quelque chose psychologiquement.
Mais Mélanie,
c'est
Julia,
ça on se complète bien, Julia.
Comme quand on va chez le coiffeur faire une manucure, ça booste votre morale. Hein, pourquoi ? Parce que pendant qu'elle vous fait les ongles, eh bien, vous allez discuter avec l'esthéticienne en face de vous. Et j'ai rencontré Lila qui travaille chez Mavala depuis 17 ans. Et elle le dit, les esthéticiennes sont devenues de vrais psychologues.
Quand on est avec une cliente et qu'on sent qu'elle n'est pas bien, on a comme un sixième sens. J'essaye justement soit de la détendre, d'essayer de la pousser à parler pour qu'elle puisse se confier. On ressent les choses avec les années dans ce métier. Moi, j'avais souvent une cliente qui me disait tout le temps « Je préfère venir vous voir, Lila, parce que vous ne me coûtez que 18 euros. Qu'AMSI me coûte 80 balles. »
Voilà, c'est quand même beaucoup moins cher. Et puis alors des ongles joliment soignés et manucurés, eh bien ça donne tout de suite confiance en soi, hein, ça renvoie une image positive, on parle avec les mains. Et c'est pour ça que depuis 3 ans, eh bien la marque de cosmétiques MEME, M-E-M-E, organise des ateliers manucure pour des femmes souffrant d'un cancer, parce qu'à cause des traitements, des chimiothérapies, eh bien les ongles sont plus abîmés, sont plus fragiles. Et le fait de retrouver de jolis ongles, eh bien ça permet de rester féminine et de remonter leur morale, comme le raconte Guyliane Chéreau, qui organise ces ateliers.
Il y en a certaines qui vont me dire « c'est la première fois que je vois mes ongles aussi beaux depuis le début des traitements et ça fait vraiment du bien ». Elles sont assez fières aussi d'avoir réussi leur manucure alors qu'elles ne s'en sentaient pas spécialement capables. Donc c'est vraiment sur ça qu'on a le avant-après le plus flagrant.
Voilà, donc ce sont de vrais socio-esthéticiennes qui viennent, qui se rendent généralement à l'hôpital. Il y a une salle qui est dédiée à ça et c'est totalement gratuit.
Et elles font un travail remarquable. On les salue, les socio-esthéticiennes. Merci beaucoup, hein, Benjamin, pour ce point complet sur cette nouveauté, donc la vernithérapie. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne heure avec nous, en notre compagnie et celle de nos invités, ainsi que nos chroniqueurs. Nous serons de retour demain, Mélanie, à partir de 11h. Quel sera notre grand sujet du jour ?
Eh bien, Julia, demain, un sujet intime, enfin, en tout cas personnel, dans notre émission. Depuis des années, on leur fait la guerre à coups de cire, de rasoir et même de laser. Les poils, les mal-aimés de notre corps seront à l'honneur. On va analyser notre rapport à la pilosité depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. On se demandera aussi à quoi ils servent, qu'on les aime ou pas.
Mais pour le moment, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le programme, Romain ?
Dans Europe Midi, dans un instant, on va évidemment balayer toute l'actualité. On va parler notamment de cette petite musique qui monte. Faut-il bloquer les loyers ? Chaque année, les propriétaires ont le droit d'augmenter les loyers. Eh bien, il y a des associations qui demandent au ministère de l'économie de stopper cela, de bloquer les loyers. Bonne ou mauvaise chose, on va en débattre. Voilà l'un des sujets dont on va parler dans Europe Midi.
Eh bien, merci beaucoup Romain. À tout de suite.
À tout de suite.